Bonjour David, bonjour à tous. La réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Bressuire sur les rails. Samedi, la convention sur son financement a été actée par les différents partenaires. L'inauguration d'Alkena, le nouveau centre totalement dédié au sport de raquette à Bressuire en fin de semaine dernière. Un pôle d'excellence selon le conseiller régional Emmanuel Charret. Le sénateur Gilbert Favreau plaide la cause des agriculteurs et des vétérinaires en interpellant vendredi dernier la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Lever le pied, le titre du premier ouvrage du bressuret d'origine Pierre Brossé, entre récits de ses longues heures à randonnée dans les Pyrénées et essais. Comme chaque début de semaine, nous reviendrons sur les principaux résultats sportifs à retenir pour nos équipes de Sévrienne. Quant à la météo, les éclaircies l'emporteront cet après-midi, cependant parfois gênées par quelques passages de nuages. Nous l'évoquions ce matin, la convention de financement a été signée pour la réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Bressuire. Les partenaires se sont retrouvés samedi matin, juste avant la Sainte-Barbe, sur laquelle nous reviendrons, pour paraffer les documents, et cela marque le début des grandes manœuvres. Les communes de Bressuire, Boimé, Bretignolles, Chiché, Courlay, Gé, Félabesse et Saint-Aubin-du-Plain se sont associées pour abonder à hauteur de 20% de l'investissement, dont le coût total se porte à 7 millions d'euros, le département pour 2 500 000 et le SDIS pour 3 100 000 euros restent les principaux financeurs. Il s'agit d'offrir un équipement moderne pour un centre qui compte 26 sapeurs-pompiers professionnels, 55 volontaires et une petite quinzaine de jeunes sapeurs-pompiers, sans oublier les deux personnels administratifs et techniques. Le colonel Thibaut Niederländer dirige le SDIS des Deux-Sèvres.
Il va y avoir un réagencement total pour qu'il y ait une forme de continuité logique dans le cycle de départ des secours. C'est-à-dire que les sapeurs-pompiers d'abord doivent passer par leur vestiaire pour s'équiper et ensuite ils doivent aller dans les remises qui permettent de monter dans les engins et partir en intervention. Et donc l'ensemble des volumes vont être réagencés pour favoriser cet enchaînement logique dans la progression vers le départ en intervention. Et puis ensuite, on va intégrer aussi des locaux qui permettront de mieux protéger les sapeurs-pompiers contre les fumées. Un espace aux équipements qui sont souillés par les fumées d'incendie et qui seront ventilés de manière plus importante. Et ça permettra d'enlever toutes les parties toxiques qui peuvent parfois rester sur les vestes de feu notamment. À travers la réhabilitation, ce sera aussi un impact moins négatif sur l'environnement et on pourra derrière faire des économies dans le chauffage, l'électricité, etc. Et ce n'est pas négligeable non plus pour le SDIS.
Les marchés de maîtrise d'ouvrage seront attribués en février pour une livraison espérée fin 2027, début 2028. D'ici là, les équipes dirigées par le capitaine Maxime Monteco devront composer avec le chantier.
Nous, c'est un projet qui va réellement fédérer les équipes et ce projet, on est très heureux aujourd'hui de le voir acté avec cette signature de la convention de financement. En effet, ça va apporter un bien-être et ça va être réellement des conditions qui vont être meilleures pour nos sapeurs-pompiers et nos personnels administratifs. Donc, on est très satisfait aujourd'hui de voir ce projet se concrétiser.
Alors, il y aura quand même la phase de chantier, pas la plus agréable quand on est sur place, évidemment.
Oui, on en est conscient. Alors après, il va s'agir de 1 an et demi, 2 ans où, en effet, on va être dans des conditions, mais qui vont être acceptable, on va être dans des modulaires prévus pour ça. D'autres centres de secours en France ont été conçus également avec ces phases temporaires, ça se fait régulièrement. Donc on n'est pas inquiet par rapport à ce point-là.
Le centre d'incendie et de secours de Bressuire qui a réalisé plus de 1500 interventions depuis le début de l'année, on en reparlera dans une prochaine édition. Retour sur l'inauguration fin de semaine dernière à Bressuire d'Alkena, le nouveau centre totalement dédié au sport de raquette. La rénovation et l'extension du centre départemental de tennis sous l'impulsion de l'agglo de Bay et de la ville se traduit désormais par 5 courts de tennis intérieur aux normes internationales, 4 terrains en terre battue à l'extérieur, 4 courts de squash, une salle de tennis de table totalement rénovée et l'arrivée de 2 nouvelles disciplines de raquette à Bressuire avec 4 terrains dédiés au paddle et 2 au pick and ball. Un véritable pôle d'excellence selon Emmanuel Charret, conseiller régional, élu référent en Nord-de-Sèvres.
Il y a l'excellence sportive avec des équipes en national, mais je dirais une excellence sociétale hein, parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu où les gens vont pouvoir échanger, un lieu qui rayonne sur toute l'agglo bressuiraise et aussi sur le Toircé. Ça doit devenir un pôle d'excellence pour former ce qu'on appelle les brevets d'État, les BE, qui vont entraîner dans les clubs. Et j'espère également qu'il y aura un rapprochement avec les lycées. Pourquoi ne pas organiser des sections sport, tennis dans les lycées?
Je crois savoir qu'il y a un équipement à peu près similaire sur Bordeaux, mais celui-ci est quand même une belle référence.
Je pense que c'est non seulement une belle référence en Nouvelle-Aquitaine, mais au niveau national. L'idée des formateurs, c'est de former pour le sud de la région sur le site de Bordeaux-Talence, je crois, et pour le nord de l'Aquitaine, à Bressuire.
Le coût total de la réalisation d'Alkena s'est élevé à 6 570 000 euros, financé à hauteur d'1 300 000 par l'agglo de B, 2 100 000 par la ville de Bressuire, avec le soutien de l'État, de l'Europe, de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'Agence nationale du sport, du CIEDS, de la Fédération française de tennis, de la Ligue de tennis de Nouvelle-Aquitaine et du Tennis Club de Bressuire. Nouvel équipement qui proposait d'ailleurs des portes ouvertes samedi dernier. L'occasion pour tout un chacun de s'essayer aux différentes disciplines. Le sénateur Gilbert Favreau plaide la cause des agriculteurs et des vétérinaires. À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2026, le parlementaire est intervenu dans l'hémicycle vendredi soir en interpellant la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Gilbert Favreau a alerté Annie Genevard sur le malaise grandissant des éleveurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse, en questionnant la méthode utilisée par l'État et les dispositifs actuels de financement de l'intervention des vétérinaires ruraux. Son intervention lui a également donné l'occasion d'évoquer la chute de production des arboriculteurs de Sévrien, lourdement impactés par les dégâts que cause le puceron cendré sur les cultures. Extrait de son intervention.
Aujourd'hui encore, dans mon département des Deux-Sèvres, l'exaspération est montée d'un cran. Les éleveurs ne contestent pas la nécessité de protéger les troupeaux. Ils contestent la méthode, une solution qu'ils vivent comme brutale, sans nuance. Et cette crise se cumule avec d'autres crises. Dans les Deux-Sèvres, nos arboriculteurs subissent une chute de production de 30 à 50% à cause des ravageurs, tels le puceron cendré, contre lesquels les protections autorisées ne sont plus efficaces. Madame la ministre, vous avez appelé récemment à un grand réveil alimentaire et alerté sur les guerres agricoles qui se préparent. Dans un contexte mondial tendu, et alors que pour la première fois en 50 ans, notre balance commerciale agricole pourrait devenir déficitaire. Ces mots résonnent d'autant plus fortement que nos agriculteurs pointent aussi les normes françaises et européennes, la concurrence déloyale des importations et la possible baisse de 24% des aides PAC d'ici 2027.
Un extrait de l'intervention du sénateur Gilbert Favreau en fin de semaine dernière au Palais du Luxembourg à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Succès total pour la 9e édition de la fête de la coquille Saint-Jacques de Thouars. Samedi dernier, René Fortin, le président du comité des fêtes, affichait un large sourire à l'issue de la manifestation. Les 5 tonnes de Saint-Jacques convoyées depuis Saint-Brieuc par Jean-Michel Le Hégarat, capitaine du bateau La Margouille, ont été liquidées durant le marché. Les commerçants présents ont également bien travaillé. Les amateurs de mollusques briochins attendent déjà l'an prochain pour un savoureux 10e anniversaire. Ce sera pour le 12 décembre 2026, bien entendu. Nous aurons l'occasion d'en reparler. L'atelier du mois de décembre proposé par l'association Terra Botanica de Thouars se tiendra ce jeudi 18 décembre à 18h au MZ. Il sera animé par la décoratrice florale Catherine Aulagnier. C'est un atelier art floral avec pour thème décor de table, idéal pour bien préparer les fêtes de fin d'année. L'atelier est gratuit, ouvert à tous, y compris celles et ceux qui n'appartiennent pas à l'association. Lever le pied, c'est le titre du premier livre du bressuré d'origine Pierre Brossé, demeurant aujourd'hui au Pays Basque. À 58 ans, ce guide de randonnée, ingénieur de formation, retrace ainsi son parcours, ses réflexions et celles des autres sur le plaisir de la marche à pied, mais aussi sur la préservation de l'environnement. L'ouvrage est un mélange personnel entre récit et essai. Pierre Brossé.
Au cours de ma traversée des Pyrénées par le GR10, donc qui va de Hendaye jusqu'à Bagnols dans les Pyrénées-Orientales, au long des longues heures de marche, tout d'un coup, en pensant à plein de choses, et notamment à la cause environnementale qui m'est très très chère, je me suis rendu compte très bêtement, très basiquement, que ce soit pour marcher ou pour préserver la planète, eh bien, il faut faire la même chose, il faut lever le pied. En détricotant tout ça, j'en suis arrivé à des points communs entre, de fait, la marche en itinérance et la préservation de l'environnement.
Vous parliez tout à l'heure de la préservation de l'environnement, terme que vous préférez à l'écologie.
Absolument, et je suis content que vous me tendiez cette perche, parce que je me considère pas comme un écolo, je me considère comme plutôt un bon sensologiste, puisque je suis convaincu que la préservation de l'environnement repose avant tout sur le bon sens. Donc oui, je préfère ce terme de préservation de l'environnement, dans lequel il y a un verbe préserver qui identifie clairement la chose qui nous attend.
Et vous donnez quelques pistes dans ce livre ?
Oui, alors je donne quelques pistes. Alors surtout pas en donneur de leçons, simplement une espèce de boîte à outils que j'expérimente moi-même dans mon quotidien, avec les bienfaits qu'ils m'ont apportés, hein, bien sûr.
Le Bressuire Pierre, brossé auteur d'un premier ouvrage de quelques 300 pages, Levez le pied. Ce dernier assurera une séance de dédicace dimanche après-midi prochain à la librairie Le Fresneau à Bressuire. L'actualité sportive, on débute avec de la course à pied. Cette immense déception pour Hugo Wey au championnat d'Europe de cross-country hier au Portugal. Le sbassiste a en effet dû jeter l'éponge. Longtemps bien placé, le Bocquin a été contraint à l'abandon un peu plus d'un tour de l'arrivée, victime d'une blessure au tendon après une alerte la semaine dernière. Hugo n'abordait pas vraiment la compétition dans les meilleures conditions, d'autant plus qu'il a été tout récemment malade. Mais pourtant, sa course se déroulait plutôt bien.
J'aurais pu finir peut-être la course, mais en boitant et en décélérant, donc ça aurait servi à rien. Et là, j'ai déjà là quand même mal en marchant, donc je sais que j'ai quand même aggravé le truc. Donc c'est une zone sensible, le tendon d'Achille, pour les coureurs. Donc j'espère que ce sera pas trop grave, mais c'est encore une fois décevant parce que, comme je vous le disais, j'étais en train de prendre la troisième place, j'étais en train de, je pense, les lâcher et j'étais même en train de revenir un peu sur les deux devant. Donc c'est encore, je pense, une opportunité de médaille européenne qui me passe sous le nez.
Hugo en saura davantage sur cette blessure dans les jours à venir. Quant au boss de Saint-Paul, le 42 km 500 est revenu chez les hommes à Fabien Contré, à Virginie Allo chez les féminines. Sur le 26 km, c'est Nathan Remy-Gerot qui s'est imposé chez les masculins, Lolita Ripo chez les féminines. Et sur le 13 km, François Roulet chez les messieurs a passé la ligne d'arrivée en tête. Et la victoire sur cette distance est revenue à Cécile Simoneau chez les femmes. La corrida de la Crèche, hier, près d'un millier de coureurs étaient au départ. Le 5 km a été remporté par l'angoumoisin Jonathan Billot chez les hommes, Pauline Nouzy du Triathlon Club de Gâtine chez les féminines. Et sur le 10 km, Pierre Chartier du CA Picta va passer la ligne d'arrivée en tête chez les garçons. La Poitevine Olivia Martin chez les femmes. En football, en National 2, match nul entre Choré et Angoulême-Charente 0-0. En National 3, match nul également. Un but partout entre la Châtaigneraie et Châtellerault. Victoire du Poiré à domicile face à Fontenay-Vendée, 4-3. Le quatrième tour de la Coupe Nouvelle-Aquitaine, la victoire de Auzon au détriment du Talus 1-0. Choré s'impose en recevant le SC Tours C 3-2. Victoire de La Rochelle contre le Pays Mélois 2-0. Défaite de Mignalou Beauvoir sur la pelouse de Saint-Mexant 3-2. Facile victoire déchirée Saint-Gelais à Smarve-Iteuil 6-2. Lourde défaite Doré d'Angers face à Niort-Saint-Florent 3-0. Qualification logique et match globalement bien maîtrisé de la part des Niortais, entraînés par David Moreau.
Beaucoup d'occasions de but, où on aurait dû, je pense, scorer encore un peu plus, mais on n'a jamais été mis en difficulté, donc ça c'est bien aussi. Donc non, match, oui, maîtrisé, je pense, du début jusqu'à la fin, en respectant l'adversaire.
À retenir également la qualification de Val au tir au but au détriment de Montcoutan. Aubin-Orté s'incline face à Léguier 2-0. Victoire d'Avire 119 face au Stade Poitevin 1-0. Beaulieu-Breuil s'impose à Chasseneuil-Saint-Georges 4-2. Victoire de Vouneuil-Soubiard au tir au but contre Inter-Bocage. À retenir également la victoire de Louzy à Pessé-le-Sec 4-1. Et Niort-Saint-Léguerre s'impose au tir au but au détriment de Saint-Cerbouillé. En Régional 1 Nouvelle-Aquitaine, Bressuire est allé chercher la victoire sur la pelouse de Périgny, grosse satisfaction, 2-1. Grosse satisfaction pour le coach Damien Charron au micro-colline de Dominique Cadu.
On avait vraiment pour objectif de profiter de ce match en retard pour essayer de retrouver cette place de dauphin. Donc c'était pas une mission simple d'avance, bien évidemment, parce qu'on savait que Périgny était sur une belle série, hormis son faux pas à Neuilly-Aubier. On va passer les fêtes à une place qui, à mon avis, correspond à notre l'ensemble de notre début de championnat.
À retenir également le match nul de but partout entre Rochefort et Thouars en Régional 1, Pays de la Loire. Les Herbiers s'inclinent face à Saint-Philbert, 3-2. Victoire de La Baule qui recevait Pouzauges, 1-0 en Régional 2 féminine. La victoire des Bressuresses face à B, 3-1. En Régional 3 dans la poule B, la rencontre entre l'entente Chantelou-Cours-les-Chapelles et Nintré a été stoppée en raison du brouillard. Match arrêté à la 14e minute. En basket, en Betclic Elite, hier, Cholet se déplaçait affronter l'Asvel. CB retrouve de la dynamique avec une seconde victoire d'affilée, 85-87, qui qui plus est chez le leader du championnat, l'ailier Scholté, Gérald Ayayi.
On s'était dit le maître mot c'était carton après carton, et je pense que c'est ce qu'on a fait. On a joué carton après carton, on n'a pas regardé les erreurs, on a continué à avancer. C'est ce qui nous avait manqué dans les matchs précédents, où on s'affaissait un peu sur nos erreurs. Là c'était win or die, du coup je suis content parce que toute l'équipe m'a accompagné.
À retenir également en handball, le troisième tour de la Coupe de France fédérale féminine et la victoire de Celles-sur-Belle face à Carquefou. 36 à 17 du rugby en national. Le match nul entre Marcq-en-Barœul et Niort. 29 partout en régional 1. Chauray s'impose face à Lesches-Cap-Ferré 35-32. En régional de Nouvelle-Aquitaine, la victoire du Cob à Oléron 5 à 27. En régional de Pays de la Loire, Thouars s'impose à Pornic 21 à 23. Et puis en régional 3, Saint-Mexant s'est facilement imposé à domicile face à Chauvigny sur le score de 62 à 9.